Salut et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 6 d'Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Autour de la table ce lundi, Arnaud Clergue et Didier Cros. Messieurs, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Manu.
Salut à toutes et tous et salut Manu.
Bonjour
et salut à tous les supporters et supportrices de l'ASM.
De Taulier à mes côtés aujourd'hui, De Taulier du service des sports, et ça tombe bien puisqu'on va parler leadership et on va parler capitaine surtout. C'est le thème principal de ce nouveau numéro d'Ici Montferrand. Quel capitaine pour l'ASM ? Un sujet qui fait beaucoup parler actuellement et au cours de cette émission, mais nous reviendrons également sur la victoire bonifiée de ce samedi en nous intéressant notamment au choix fort et payant de Christophe Furios. Nous aborderons également le déplacement des Clermontois à Montpellier, ce sera ce samedi, et enfin nous terminerons avec les traditionnels top et flop. Mais revenons sans plus attendre au thème principal de cette émission: quel capitaine pour l'ASM. Alors messieurs, avant de vous laisser la parole, on va recontextualiser tout ça. Donc en début de saison, Christophe Furios a nommé Yeray Simonet capitaine de l'ASM avec deux vice-capitaines, Étienne Falgou et Baptiste Jauneau. Simonet qui succédait ainsi à Arthur Ituria, parti à Bayonne. Yeray Simonet donc a été capitaine pour les deux matchs de préparation. Il a ensuite enchaîné face à Oyonnax, le match face à Perpignan, et lors du déplacement à Lyon. Simonet qui ne figurait pas dans le groupe ce week-end face à Bayonne, c'est Étienne Falgou du coup qui portait le brassard. Messieurs, il y a un certain flou quand même autour du capitana. C'est un sujet qui anime pas mal de discussions en ce moment.
Ah bah il y a un flou parce que quand on prend la logique d'un brassard de capitaine, la première des conditions, c'est que ce joueur doit être titulaire. Il n'y a pas à réfléchir 50 000 ans à ça. Donc les choix sont restreints forcément. Et en début de saison, donc effectivement, par rapport à ce fait-là, par rapport au leadership, par rapport à tout un tas de choses, Christophe Furios avait émis le choix assez surprenant, que moi personnellement je trouvais surprenant, de mettre Yeray Simonet capitaine. Pourquoi je trouvais ce choix surprenant ? Parce que ça faisait pas longtemps qu'il était là. C'est pas un joueur qui parle français, donc dans la communication avec ses coéquipiers et avec les arbitres aussi, c'est vachement important. C'est plus compliqué, mais bon, Yeray Simonet était titulaire indiscutable, donc c'était le de toute façon c'était il faisait partie d'une des options, et force est de constater que ses prestations plutôt moyennes ont remis en cause son statut de titulaire et que Christophe Furios a dû revoir ses plans ce week-end.
Pour en revenir un petit peu le film, Christophe Furios et son staff avaient bien aussi précisé, lorsque Simonet avait été désigné, qu'un point serait fait après la Coupe du Monde. Donc c'était déjà, il l'avait déjà annoncé. On rappelle qu'il va y avoir un nouveau débriefing avec le Conseil des Sages et tout le groupe lors du petit stage qu'il va y avoir avant Toulon à la fin du mois pour rediscuter tout ça. Mais c'était déjà annoncé quand même. Hein, donc on peut pas. La situation a un peu évolué, mais c'était déjà un peu quand même. Il l'avait déjà annoncé. Donc c'est pas complètement non plus quelque chose qui est tombé sur de nulle part, qui est venu de nulle part, hein, cette
dans
discussion.
Sa tête, dans sa tête à Christophe Furios, enfin dans les interviews qu'il a pu accorder, notamment quand il justifiait ce choix-là, dans sa tête c'était clair, il a même dit en mai dernier, pour moi c'était le capitaine, il disait il montre des choses dans le vestiaire importantes pour la vie du groupe. Donc
je crois aussi que c'est un peu le choix par défaut parce qu'il n'y avait personne d'autre qui s'imposait dans le groupe comme étant le successeur naturel d'Arthur Ituria. Donc à partir de là, il a fallu qu'il fasse un petit peu le tour du vestiaire pour voir qui cochait le plus de cases. Et à la limite, il en a déduit que c'était Yeray Simonet. Mais je pense que c'était pas un choix par défaut, mais c'est parce que aucun autre ne se détachait véritablement.
Ouais, parce que si on prend les historiques du club, je vais parler par exemple Paul Gédrasiak, mais il est pas titulaire en puissance, il est pas titulaire. Rob Simons, il est là depuis cette année. Étienne Falgou est vice-capitaine, mais est-ce qu'il a l'envergure? Est-ce que c'est quelque chose qui lui plaît d'être capitaine? Je suis pas certain à 100%. Baptiste Jauneau est à 19 ans, ça me semble difficile d'être capitaine et lui mettre beaucoup de charges sur ses épaules. Donc effectivement, comme le disait Didier, il n'y avait pas 15 000, il n'y avait pas 10 000 options. Georges Moala, en début de saison, n'était pas là, il était à la Coupe du Monde. Fritz Lee, pareil. Oui, il n'y avait pas 10 000 options en début de saison.
Alors, quand on regarde, hein, Christophe Furios l'avait notamment expliqué dans différents articles hein, parus dans nos colonnes, pour lui, être capitaine, c'est être capable de faire ce qu'il dit. Donc, il parle du joueur, hein, du capitaine. Il doit penser que le collectif est prioritaire et il doit relayer le message du staff. Alors, quand on lit entre les lignes, hein, c'est vrai que bon, c'est des choses qui paraissent assez logiques. On peut s'attendre, tu l'évoquais tout à l'heure Arnaud, un capitaine c'est un leader indiscutable sur le terrain, il faut savoir faire preuve de charisme dans le vestiaire et en dehors et être à l'aise dans la communication. Et c'est vrai que sur ces dernières semaines, Irey Simonet ne cochait pas toutes ses cases.
Il y a un problème qui à mon avis est rédhibitoire, c'est que Irey Simonet ne parle pas français et qu'à un moment ou à un autre ça pose problème. On l'a vu sur plusieurs situations où l'arbitre est venu lui donner des consignes, est venu lui expliquer des choses et visiblement il comprenait pas ce qu'il lui disait, hein. Donc ça, à mon avis c'est quelque chose qui peut pas aller sur la durée. Et j'ai fait un petit point d'ailleurs sur tous les capitaines qui étaient nommés ce week-end en top 14. Il y a qu'au Racing où il y a un étranger qui était capitaine, c'était le centre Francis Saïli. Tous les autres c'était des Français.
C'est d'ailleurs ce que disait Étienne Falgou dans l'article publié samedi, Didier, que tu avais fait, où il disait que ce rapport avec l'arbitrage, ces échanges, c'est hyper important.
Évidemment. Il y a une part d'influence, de jeu, de communication, d'aller demander des explications. Ça fait partie du jeu. C'est pas forcément, comme disait, c'est pas chercher forcément à influencer, mais c'est aussi rentrer dans cette relation intime avec l'arbitre pour qu'à la sortie, bon, il y ait peut-être pas une connivence, mais bon.
Ouais, on ne le voit pas qu'en top 14, on l'a vu par exemple en Coupe du Monde,
bien sûr,
oui. Où Dupont, en quart de finale, a eu du mal à rentrer en communication avec Ben O'Keefe. Enfin, c'est pas la communication passait mal, et en top 14, c'est effectivement aussi primordial.
Et Farwell, ouais. qui a joué pendant tout le tournoi avec les arbitres, en allant leur demander des explications, en allant chouiner, enfin bon. C'est un véritable rôle de l'arbitre,
bien sûr.
Du capitaine. Quoi.
Du capitaine.
Il s'est mené pour ça. Au-delà de ses prestations qui n'a pas été bonne à Lyon, je pense que sur la durée, je pense que ça pose problème. Mais j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, qui a la place ?
Il y en a un, enfin, quand on lit, c'est une proposition que je vais vous faire, mais quand on voit le côté leader, le côté charisme, le côté communication, il y en a un qui se dégage, à mon sens, naturellement.
On voit bien, oui.
C'est Orda Pileta. Oui. Et pourquoi Orda Pileta n'est pas capitaine de la SM aujourd'hui ?
Moi, franchement, on aurait eu à faire un pari, à mettre un billet sur la table. Moi, je pensais qu'il allait mettre Orda Pileta capitaine en début de saison. Parce qu'en faisant le tour des joueurs que je pensais titulaire à tous les coups, je pensais que effectivement il allait mettre Orda Pileta capitaine, puisqu'il le connaît de Castres, il le connaît d'Oyonnax, c'est deux personnes qui s'apprécient et qui se comprennent parfaitement, mais peut-être, nous croyons savoir.
Il le connaît trop bien.
Oui, il le connaît trop bien, et c'est quelqu'un qui a une grinta qui est des fois pas facile à cadrer, et il a peut-être cette peur-là que l'Argentin déborde un peu.
On l'a vu lors du dernier match à domicile, enfin l'avant-dernier match à domicile
contre La Rochelle,
contre La Rochelle, où il a été à deux doigts de péter les plombs, et ça a été à deux doigts avec son altercation avec.
Ouais, mais c'est arrivé d'autres fois que des joueurs justement, qui avaient un comportement peut-être un petit peu difficile, soient nommés capitaine justement pour qu'ils aient une relation un peu particulière. Le statut de capitaine vis-à-vis des arbitres, ils acceptent davantage de choses quand le joueur est capitaine que lorsqu'il n'est pas capitaine. Ça peut peut-être aussi apaiser, ça peut rentrer dans la relation. Est-ce que justement,
à 38 ans, je ne suis pas sûr que notre ami change de caractère et change sa manière d'être sur un terrain, dans ses relations avec les coéquipiers aussi, où il est un peu, où il branche facilement ses coéquipiers. Où bon, quand ça va bien, ça va tout va bien. Mais quand il y a quand la situation est un peu tendue, il peut être caustique, il peut être piquant. Et donc, pour un capitaine, ça ne va pas. Ça, il faut être aussi diplomate entre guillemets, savoir arrondir les angles, et je suis pas sûr, enfin, je ne connais pas excessivement bien Roda Pulitzer, mais il ne correspond pas, il ne coche pas cette case-là, en tout cas.
Est-ce que Christophe Furios aussi, est-ce qu'il n'a pas eu peur, entre guillemets, ou est-ce qu'il n'a pas souhaité, on connaît la relation, la proximité entre les deux hommes, entre Christophe Furios et Roda Pulitzer, est-ce que Christophe Furios n'a pas voulu l'imposer comme capitaine pour montrer aux autres
Peut-être qu'il y a eu, peut-être que l'entraîneur s'est dit effectivement, je ne vais pas le mettre tout de suite capitaine parce que ça va envoyer un mauvais message à ceux qui sont là depuis longtemps. Ouais, peut-être un petit sentiment de favoritisme, et, etc. Oui, c'est peut-être probable qu'il y a du management là, là-dedans, et c'est peut-être aussi probable qu'il va y réfléchir aussi.
Oui, donc on l'a su, tu l'as dit tout à l'heure, Didier, il y aura ce point qui sera fait avant le match contre Toulon.
Normalement, tous les joueurs devraient être là enfin pour la première fois de la saison, puisque jusqu'à présent il manquait des mondialistes, il manquait les Argentins, il manquait les Tongiens. Donc normalement, Lavagny devrait être rentré normalement. Et donc à ce moment-là, ils vont pouvoir faire. Ça va être la première fois où le groupe sera au complet, et ça sera à la limite deux jours de cohésion entre
les. Oui, ça va peut-être être participatif aussi. Va sonder les. Peut-être que Christophe Furios va sonder les joueurs. Peut-être qu'il va soumettre le choix d'Orda Pileta. Qu'est-ce que vous en pensez? À les savoir. Mais je serais pas surpris qu'ils réfléchissent à cette option-là. Oui.
Selon vous, est-ce qu'on peut revoir Simonet avec le brassard de capitaine cette saison?
Oui, je pense.
Je pense que oui. Il sera dans. De toute façon, le brassard de capitaine, c'est quelque chose qui tourne dans la saison. Il n'y a pas un capitaine, et on le voit, c'est dans tous les clubs. Hein. Il y a 3-4 joueurs à chaque fois qui sont susceptibles d'avoir le brassard dans une saison. Donc oui, on reverra Simonet en tant que capitaine, mais il faut déjà le revoir sur le terrain, et qu'il ait un niveau qui retrouve un niveau qui est en adéquation avec ce qu'il est capable de proposer depuis qu'il est à Clermont. C'est très moyen, et donc il faut qu'il se remette à niveau, il faut qu'il travaille. Ça, Christophe Furios,
donc il a jamais éclaboussé le terrain.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu... Et donc comme l'a dit Christophe Furios, avoir le capitaine, ça te garantit pas une place de titulaire assurée. Donc il y a ce lien de cause à effet aussi, il faut qu'il retrouve son niveau avant de parler de capitaine.
Alors selon vous, est-ce que, on a parlé tout à l'heure, les Argentins qui vont arriver dans les prochains jours, est-ce qu'ils peuvent rebattre les cartes aussi au niveau du capitana? On pense notamment à Thomas Lavagnini.
Je pense pas non plus, je suis certain que non. Pas au niveau du capitaine, hein. Peut-être au niveau du leadership pour intégrer ce qu'ils appellent le conseil des sages, oui, peut-être. Mais au niveau du capitana, non, ils sont pas postulants,
Ce sera des leaders par l'exemple, parce que c'est des mecs qui s'y filent et qui avancent et qui mettent l'équipe dans l'avancée. Dans ce rôle-là de leader par l'exemple, oui, Marcos Kremer et Lavagnini, il n'y a pas de souci, ils feront partie de ces joueurs capables d'influencer le groupe et l'effectif, mais de les voir capitaine, non. Kremer, c'est trop tôt, et Lavagnini, je pense pas qu'il ait les qualités pour.
Puis son français est quand même encore très, très approximatif à Lavagnini aussi.
Il y a ça aussi, effectivement, qui compte. Un petit mot sur Fritz Lee, donc, qui avait été capitaine à 4 reprises en fin de saison dernière pendant l'absence d'Ituria.
Et même sous Azema.
Même sous Azema, ouais. Également. Alors, Christophe Furios en avait parlé justement cet été, et pour lui, il le voit plus comme un homme de transmission, moins avec le brassard de capitaine.
Oui, donc je pense que c'est pas un rôle qui plaît à Fritz Lee de se mettre en avant, d'aller aux conférences de presse, parce que Furios demande à son capitaine d'aller aux conférences de presse avant match et après match. Et ça, c'est pas un exercice qui lui plaît beaucoup à Fritz Lee. Hein. Quand Furios dit ça, c'est que à mon avis, lui non plus pour lui, il ne coche pas toutes les cases pour être capitaine sur la durée. Hein, j'entends, occasionnellement, évidemment.
Puis il se posera aussi la question de. Je ne suis pas sûr que Fritz Lee soit un titulaire 100% sûr dans la troisième ligne clermontoise. Je pense qu'il va plutôt miser sur Yato, Kremer et Sowakula. Et Fritz Lee en impact player pour les dernières minutes, parce que bon, l'âge avançant, hein, même s'il a fait un très gros match contre Bayonne samedi, je pense pas que dans son esprit il soit titulaire indiscutable. Donc effectivement, pour un rôle de capitaine. Mais peut-être sur des coups, comme on disait tout à l'heure, dans la saison, où il sera peut-être et certainement amené à avoir le brassard de capitaine. sur des matchs au coup par coup. Ouais.
Alors, il y avait, on l'a dit tout à l'heure en préambule hein, de ce thème, c'est les deux vice-capitaines, Étienne Falgou et Baptiste Jauneau. Baptiste Jauneau, c'est un jeune joueur, c'est Christophe Furios l'a même dit dans l'interview qu'il nous avait accordé avant le début de la saison. Il a réfléchi à le mettre capitaine, mais il avait peur de le broyer. Ça paraît jeune quand même, et est-ce qu'aujourd'hui Baptiste Jauneau ne doit pas davantage se concentrer sur ce qu'il a à faire sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas lui rajouter une charge supplémentaire?
Je pense que c'est un peu la réflexion qu'a dû avoir Christophe Furios. Il faut lui laisser prendre de l'expérience, lui laisser prendre du temps de jeu en top 14, parce qu'il n'en avait pas tant que ça finalement, hein. Donc lui laisser accumuler des matchs en top 14avant de, et puis arrivera ce qui doit arriver, c'est-à-dire l'an prochain peut-être, ou ou en cours de saison, il deviendra naturellement capitaine s'il reste sur cette trajectoire.
Hein. Et puis ce qu'il a dit, ce que l'entraîneur a dit en conférence de presse après match samedi soir, qu'il attendait de Baptiste Jauneau qui joue simplement, qui joue son rugby, qui ne pense pas à faire gagner l'équipe, qui ne pense pas à porter l'équipe sur ses épaules lui-même. Le capitanat, je ne trouve pas que ça soit très compatible avec toutes ces remarques.
Mais alors, on a fait le tour, on a cité plusieurs joueurs qui ont ce côté leader, entre guillemets, mais si on regarde bien, il n'y a pas non plus l'embarras du choix pour Christophe Furios. Hein.
On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Oui, c'est un peu... C'est le manque de candidat crédible et naturel qui fait que il y a un peu la question qui se pose autour de ce poste important quand même.
On pourrait citer Bézi, mais Bézi n'est pas titulaire indiscutable. Enfin, on peut remuer le problème dans tous les sens. Il n'y a pas beaucoup de candidats. C'est pour ça, moi, je mets un petit billet sur notre ami Benjamin Ordapileta.
Oui, un choix qui semble aujourd'hui s'imposer. Et on suivra ce qu'il ressortira de ce mini-stage hein, qui sera programmé avant la réception de Toulon et où la question du capitanat sera évoquée, bien entendu, au sein du groupe Clermontois. Merci, messieurs, pour avoir répondu à cette question et avoir abordé ce thème principal. On va enchaîner avec le deuxième point de ce podcast, à savoir les choix forts et payants de Christophe Furios face à Bayonne. Alors, on l'a déjà évoqué entre guillemets lors de ce premier thème, mais Ira et Simonet, du coup, qui était le capitaine clermontois depuis le début de la saison, ne figuraient pas dans le groupe retenu pour la réception de Bayonne. Baptiste Jauneau, qui était titulaire à Lyon la semaine précédente, a débuté sur le banc face à Bayonne. Christophe Furios a opéré des choix forts, a pris des décisions assez fortes là.
Bah, le truc, c'est que actuellement Christophe Furios n'a pas beaucoup de blessés, donc il a le choix. Et donc, et s'il a le choix, il veut appliquer sa philosophie qui repose sur le travail. Il a assez insisté là-dessus. Et on comprend que quand il aura le choix, les joueurs qui sortent de ce cadre-là, bah, ils seront automatiquement remis en question. Donc, ça fait partie d'un discours. Et les actes sont plutôt cohérents avec ce qu'il dit.
Oui, tout à fait. Là, c'était des choix dus à des prestations jugées insuffisantes hein, et pas assez élevées à son goût concernant Baptiste Jauneau et Ira et Simonet qui, pour le premier, étaient passés sur le banc et l'autre carrément sorti du groupe. Après, il y aura forcément un turnover rendu nécessaire par l'accumulation des matchs, hein, des joueurs qui vont sortir parce qu'il va falloir ménager, parce qu'il va falloir penser au match d'après ou mais effectivement, comme dit Arnaud, en ce moment, il a la chance d'avoir, du moins sur certains postes, l'embarras du choix. Le seul poste qui est un peu sous tension actuellement, enfin qui est sous tension actuellement, c'est le poste de talonneur. Mais pour le reste, il a l'embarras du choix. Donc, et puis avec des joueurs qui sont en forme, donc effectivement, ça lui permet de faire jouer la concurrence, de faire du coaching aussi. On l'a vu faire du coaching samedi. Donc c'est quand même. Et puis il le voit bien. Enfin, il le reconnaît. À l'entraînement, c'est quand même pas la même chose actuellement. C'est quand on voit ces Clermontois s'entraîner. Qu'il y a un mois ou deux, c'est autre chose, quoi. le nombre fait que la qualité arrive.
Alors, Christophe Furios qui a insisté. Hein. Oui, vas-y.
À effectif quasi complet, il envoie un message à ses joueurs, à personne qui a un totem d'immunité. Raël Simonnet, s'il est capitaine, quand bien même il est capitaine, s'il n'est pas bon, bah, tu joues pas le week-end suivant. Et Baptiste Journeau, pareil, qui est la pépite du club, un joueur sur lequel l'ASM compte énormément pour les années futures, bah, c'est pareil, si t'es pas bon, bah, tu commenceras le match sur le banc. Donc il envoie un message fort. Et donc c'est des choix. C'est des choix de management, mais qui peuvent peser dans un groupe. Ouais.
Oui, et puis il est conforté, il sort conforté, Christophe Furios, avec cette victoire bonifiée, 46-14. Du coup, derrière, forcément, il est renforcé. Il a insisté sur cette valeur travail, et c'est un discours qu'il a martelé en conférence de presse d'après-match. Voilà, le message est clair pour ses joueurs. Celui qui sortira des clous peut avoir des conduits
oui,
derrière.
Bien sûr. Là, en l'occurrence, il sera intéressant de voir s'il y a des changements pour le déplacement à Montpellier par rapport à la semaine d'entraînement que ces joueurs vont fournir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des petits pépins qui ne sont pas parus samedi soir ? Ça reste à voir. Mais ça sera intéressant donc, de voir quelle composition il va et quel groupe il va envoyer à Montpellier. Est-ce qu'il va récupérer, enfin ramener ceux qui ont été, enfin, notamment Simonnet, est-ce qu'il va le remettre dans le groupe ou pas, enfin, bon, ça va être intéressant ça.
Tu parlais du match de Montpellier, la transition est toute trouvée messieurs, c'est le dernier thème hein, de ce podcast, ce déplacement du côté de l'Hérault, ce sera ce samedi. Alors avec cette question, messieurs, est-ce que c'est le bon moment pour l'ASM, est-ce que ce serait pas le bon moment plutôt pour aller faire un coup à l'extérieur, l'ASM qui n'a plus gagné loin de ses bases depuis plus d'un an, dernière victoire en octobre 2022, c'était du côté de Perpignan, l'ASM qui se déplace chez l'avant-dernier de ce top 14, Montpellier avec qui compte 5 points, 13e avec 5 points, est-ce que voilà, c'est pas l'occasion rêvée là pour aller enfin chercher cette victoire à l'extérieur?
Ah bah totalement si. On a connu une équipe de Montpellier, même si l'avant-dernier c'était pas foufou, on a connu une équipe de Montpellier bien meilleure que ça et bien plus cohérente, et je parle de A à Z dans toutes les arcanes du club. Je sais pas, on sent que c'est un club là qui... Il y a des dysfonctionnements dans ce club. Philippe Saint-André n'est plus sur le banc. Je trouve qu'il s'éparpille un peu beaucoup. On le voit beaucoup présent dans les médias et pas trop du côté de Montpellier. Il y a quelque chose de bizarre dans ce club. On sent un club endormi.
Alors je ne sais pas si c'est le bon moment, mais en tout cas, ça serait quand même au-delà du résultat qu'on espère positif pour Clermont. Mais il sera intéressant de voir le contenu du match, parce que malheureusement, les deux derniers déplacements de Clermont ont été quand même catastrophiques en termes de, enfin catastrophiques, le mot est un peu faible, un peu fort, mais ils n'ont pas été à la hauteur des espérances que Christophe Furios et son staff avaient émis. Donc il faudra voir aussi le contenu. Après tant de déceptions, tant de désillusions à l'extérieur, et puis par rapport à ce que cette équipe a montré samedi dernier, on aurait du mal à comprendre comment une équipe aussi conquérante un samedi passe encore une fois à travers à Montpellier. Et ça sera intéressant à voir effectivement quel visage Clermont va montrer. Est-ce que c'est le visage du Michelin où elle casse tout, ou le visage habituel à l'extérieur, où, avec ses trous d'air, avec ses manques d'implication, enfin, ses fautes successives. Enfin, oui. Malheureusement, l'ASM à l'extérieur, c'est...
Oui, t'as raison, oui.
C'est une litanie de déception depuis 2 ans, hein, parce qu'on parlait depuis 2 saisons, on parlait du dernier une victoire la saison dernière, mais c'était aussi une victoire
la saison d'avant,
deux, ouais. Dont à Montpellier et à Biarritz, je crois.
Il y a eu 3
Biarritz, exact. Ouais. Oui, tout à fait.
Il y a eu 3 victoires en quasiment
2 ans,
plus de 2 ans. Ouais.
Et là où tu as raison de le dire, c'est que on se disait à Oyonnax aussi, bah c'est le bon moment là, c'est l'ouverture de saison, c'est le bon moment d'aller à Oyonnax. T'as rien ramené. Ah, c'est le bon moment d'aller à Lyon là, après la Coupe du Monde. Ils n'ont pas rentré encore tous les internautes. Bah, t'en as pris 40. Donc, effectivement, là, c'est, tout dépendra de, effectivement, comme l'a dit Didier, du visage que montrera l'ASM. Faut absolument qu'ils mettent le même curseur qu'ils mettent au Michelin, parce que c'est pas possible d'être aussi indigent à l'extérieur et d'être aussi conquérant à domicile. C'est difficilement compréhensible.
Un petit retour, un petit rappel de la performance des Montpelliérains depuis le début de la saison. Montpellier qui avait débuté par une victoire, c'était face à La Rochelle lors de la première journée, 26-15, et qui a enchaîné derrière 4 défaites à Toulouse, 38-13, au Stade Français, 24-9, à domicile face au Racing, 19-16, et ce week-end du côté de Bordeaux-Bègles, 26-13. Voilà une équipe de Montpellier qui se retrouve sous pression au moment de recevoir les Clermontois. Merci messieurs, avant de se quitter, on va enchaîner avec le traditionnel rendez-vous des tops et des flops. Vous connaissez le principe, je vais vous demander un top ou un flop après ce week-end rugbystique. Messieurs, on va commencer avec toi Arnaud.
Bah, c'est un top, on en a déjà un peu largement parlé pendant le débat sur le capitaine, mais mon top c'est Wourda Pileta, parce que on voit la différence quand il est d'un numéro 10 qui prend en compte, qui prend en main les opérations. Au pied, il a mangé Camille Lopez. On s'attendait beaucoup au duel contre Camille Lopez, mais Camille Lopez l'a largement perdu le duel dans des conditions climatiques difficiles, avec un peu de vent, avec de la pluie. Wourda Pileta a dominé son adversaire sur la gestion du jeu au pied, et il a été également aussi archi présent en couverture dans le troisième rideau sous le jeu au pied adverse, dans la partie de ping-pong rugby qu'il y a eu en première mi-temps. Il a été incroyablement à l'aise, et puis aussi il y a cette passe sur un pas sur le premier essai clermontois. Il a été bon dans l'alternance, il a été bon dans la direction du jeu. Le seul petit bémol, c'est son 3 sur 6, 50% de réussite face au poteau. Bon, il y en a beaucoup qui étaient sur le côté, donc
qui étaient excentrés,
tourbillonnant, ouais. Donc ceci peut expliquer cela. Mais bon, il sortait d'un 100% à Lyon. Donc ouais, c'est vraiment le maillon qu'il n'y avait pas la saison dernière pour l'ASM.
Ah, puis quel patron, enfin, j'ai deux images, encore une fois, où on le voit parler assez...
C'est
assez
rassurant partenaire. Pour une équipe.
Ah, ça, c'est certain.
Il faut espérer qu'il puisse enchaîner beaucoup de matchs cette saison, pour le rendement collectif.
Didier, un top ou un flop?
Ben, ça sera aussi un top que je vais adresser à l'USAP, qui a signé sa... L'USAP Perpignan, qui a signé sa première victoire de la saison face au Racing Toulon, au Rugby Club Toulon, pardon. C'est la première victoire de Franck Azéma face à son ancien club. Bon, on espère pour eux que la saison est enfin lancée, parce que ça a commencé à couiner un petit peu, et puis ça a commencé à être un peu compliqué pour eux aussi.
Ouais, ça va sûrement leur faire du bien, cette victoire. Ben, merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez l'ami Greg Gomez. D'ici là, belle semaine à tous, et je vous dis à bientôt. Salut.
Au revoir.
Salut.